France Inter.
Des lettres qu'elle a étudiées en parallèle du théâtre, la comédienne Ludivine Sagnier, également co-directrice de la section acting de l'école de cinéma Courtrage-Mais, a imprégné les pellicules d'une bonne cinquantaine de films. Celle qui débute petite fille dans des films de Pascal Thomas et Alain Resnais incarne une gamme étendue de femmes chez François Ozon, et je pourrais citer Goutte d'eau sur Pierre Brulante, Huit femmes, Swimming Pool ou récemment dans Quand vient l'automne. La fée clochette de Peter Pan de P.J. Hogan a notamment été dirigée au cinéma par Claude Miller, Xavier Giannoli, Olivia Sayas, Claude Chabrol, Alain Corneau ou Ridley Scott. Elle incarne la miraculeuse Esther dans la série de New Pope et de Young Pope, les deux séries d'ailleurs, de Paolo Sorrentino, et donne à entendre la voix de Vanessa Springora sur scène dans Le Consentement, mise en scène par Sébastien Davis, une de ses différentes façons de s'engager. Ce soir, ce sont aussi ses nombreuses collaborations avec Christophe Honoré que nous allons aborder, puisqu'après l'avoir dirigé dans Les Chansons d'amour et Les Bien-aimés, il l'a transformé en Nathalie Sarraute dans sa pièce Nouveau Roman et lui donne toujours au théâtre le rôle de l'héroïne de Flaubert, Emma Bovary, dans une adaptation très personnelle faisant écho au film Lola Montes de Max Ophuls. Le spectacle s'intitule Bovary Madame et commencera sa tournée au Théâtre de Vidy à Lausanne du 17 septembre au 8 octobre pour ensuite sillonner la France et s'installer un temps au Théâtre de la Ville à Paris du 20 mars au 16 avril 2026. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter,
yes.
La 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Ludivine Sagnier.
Bonsoir Eva.
Vous venez de me donner votre approbation d'un yes.
Je trouve que vous avez très bien articulé.
Merci, oui, parce que c'était pas évident. J'ai un peu patiné pendant les essais de voix, alors j'avais peur de pas réussir à faire cette intro. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Ce qui m'enthousiasme, j'ai envie de dire le film de Joachim Trier quand même.
Ah oui.
Valeurs sentimentales.
Il paraît que c'est très beau.
Ouais, je vous le conseille.
Ouais, j'ai pas encore eu le temps de le voir. Vous avez pleuré parce que des membres de mon équipe ont pleuré, mais je ne dirai pas qui.
Évidemment.
Ouais, parce que
c'est impossible de ne pas pleurer. Enfin, pour moi, c'est impossible de ne pas pleurer.
Alors, dans beaucoup d'interviews, on vous parle de votre précocité.
Oui.
Cours de théâtre à Sèvres, le premier rôle à 9 ans par accident, puisque vous accompagnez votre sœur à un casting. Vous n'avez jamais été lassée en 36 ans de métier alors que vous êtes une jeune femme.
Alors, au risque de vous décevoir, je ne suis pas vraiment une jeune femme, même si je ne me considère pas comme vieille.
Jusqu'à 90 ans, on est une jeune femme.
Ok, alors d'accord. Lassée, je ne sais pas si c'est le terme lassée. Inquiète du désir que j'avais pour ce métier, oui, ça a dû m'arriver, de m'inquiéter, de pas être sûre d'avoir envie de continuer. Mais je me suis, c'est aussi pour ça que j'ai tendance à diversifier les projets, à aller un peu partout, pour que quelque part mon désir reste intact.
Est-ce que vous prenez facilement des risques?
Oui, je crois que j'en prends pas mal, ouais.
S'il y a une chose qui vous fait peur à jouer?
J'aurais peur de jouer un flic.
Ah bon?
Je sais pas, je c'est une fonction que dans laquelle j'arrive pas à me projeter. Voilà, de bon. Dire l'assassin a laissé des traces. Vous voyez, j'arrive pas.
Parce que ça vous fait rire?
Je sais pas, je me vois pas en flic, je me vois pas en détective.
Mais vous voyez en femme de Mesrine, comment vous dites?
Mesrine. Ouais, peut-être j'ai plus souvent joué des femmes de voyous que des policières.
Mais vous aimez bien Jean-Pierre Melville, par exemple?
Ah, mais j'adore!
Parce que lui, il met les deux au même niveau, c'est ça qui est magnifique.
Absolument, absolument. J'adore, mais il n'est plus là pour me convaincre que j'en suis capable.
Et bien pourtant, il est là ce soir. Non, c'est pas vrai, j'adorerais. Bon, allez, je suis sauvée par une archive sonore.
Comment tu t'appelles?
Mathilda.
Désolé pour ton père.
S'il n'avait pas été tué cette fois, un jour ou l'autre, peut-être que c'est moi qui l'aurais fait.
Et ta mère, elle?
C'est pas ma mère. Et ma sœur, de toute façon, elle pensait qu'à maigrir. Elle doit se trouver très bien maintenant. De toute façon, c'était pas ma vraie sœur, juste une demi-sœur. Et pas la meilleure moitié, en plus de ça.
Mmh. si tu les aimais pas, pourquoi tu pleures?
Parce qu'ils ont tué mon petit frère. Pourquoi ils l'ont tué, lui? Il avait que 4 ans. Jamais il se plaignait, il faisait que des câlins. Le soir, il serrait contre moi et... C'était moi, sa vraie mère. Pas cette espèce de truie.
Ludivine Sagnier, vous avez fait du doublage français de films anglophones à partir de l'âge de 13 ans. Et là, je crois que vous avez 15 ans quand vous doublez Nathalie Portman dans Léon de Luc Besson.
Oui, absolument.
Vous l'avez repassé récemment ou ça vous a surprise?
Non, j'ai pas revu le film depuis très longtemps. Ce qui m'a choqué, c'est d'entendre une voix de bébé. À 15 ans, j'avais vraiment une voix de petite fille. Et je sais que c'est pas tendance de dire du bien de Luc Besson, mais c'était une expérience artistique formidable qui m'a énormément marquée et enrichie. Quand j'étais jeune, il m'a beaucoup appris. C'était 3 semaines de travail, mais on était en studio avec Jean Reno. Il y avait un côté très très laborieux, un travail d'orfèvre sur chaque réplique. Et je me souviens de la dévotion de Jean Reno, qui avait pourtant déjà tourné le film, mais qui était dans une remise en question permanente. Et il y avait un sens de la recherche et de la précision qui m'ont marqué à vie.
Ensuite, vous avez eu le premier prix de théâtre au Conservatoire de Versailles, le bac à 16 ans, cours de théâtre. Fac de lettres, est-ce que vous vous souvenez des auteurs que vous aimiez à cette époque?
Bien sûr, bien sûr. Ben, en fait, c'est un peu les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. C'est Flaubert, c'est Balzac, il y avait Goethe, il y avait Duras. Bon, basique quoi. Hein.
Ben, basique chic.
Si vous voulez.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Franz, j'ai fait la connaissance d'un homme et il veut m'épouser.
C'est pour ça que tu m'as téléphoné?
Oui. Je voulais te revoir et te parler avant de dire oui.
Ah oui? Et pourquoi?
Mais c'est parce que c'est toi que j'aime et pas lui.
Mais...
Non mais dis rien. Dis rien pour l'instant. Réfléchis encore un peu.
Mais pourquoi veux-tu que je réfléchisse? J'aime Léopold. J'ai rien d'autre à dire.
Mais tout ce qu'on avait imaginé. Nos enfants, notre maison.
Tout ça, c'est des conneries.
Non, Franz, c'est pas des conneries. Tout ça aurait pu arriver si...
Anna, tu continues de rêver, là. Épouse donc cet homme, qu'il te fasse des gosses et je vous servirai de parrain.
T'es cruel. Pourquoi t'es cruel comme ça?
Ludivine Sagnier, c'est vous qu'on entend avec Malik Zidi dans « Goutte d'eau sur pierre brûlante » de François Ozon. Ouais. Et en fait, au début, vous préfériez le théâtre au cinéma et ça vous rassurait un peu de faire ce film puisque c'était adapté de Fassbinder, donc c'était du théâtre filmé.
Oui, absolument. C'est vrai que j'avais une formation théâtrale, même si j'avais tourné pas mal au cinéma étant enfant. Mais je sais pas pourquoi j'associais le cinéma à quelque chose de récréatif. Et quelque chose effectivement d'enfantin. Enfin, c'est pas que je lui manquais de respect, mais en fait c'était par rapport à mon expérience. Et quand Ozon m'a proposé de faire Fassbinder, je me disais que c'était exactement là où il fallait être.
Vous avez joué aussi dans La Petite Lily de Claude Miller, c'était une adaptation de La Mouette de Tchekhov. Mmh. Et puis Huit femmes de François Ozon, c'est quand même formellement très théâtral.
C'est vrai. C'était aussi l'adaptation d'une pièce de Robert Thomas.
Est-ce que c'est vrai que quand vous êtes retrouvée face à Catherine Deneuve, vous aviez les larmes aux yeux et elle vous a dit « mais arrêtez de pleurer, enfin on dirait une sotte ».
Arrêtez de pleurer, petite sotte, elle m'a
ah,
dit.
Ah c'est pire.
Ouais.
Mais après elle est devenue sympathique avec vous.
Ah mais tout de suite.
Vous dites que c'est un Saint-Bernard en Saint-Laurent.
Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Non, elle a dit « arrêtez de pleurer, petite sotte » et là elle m'a regardée en souriant et elle a essuyé ma larme sur la joue avec une douceur infinie.
Oh waouh.
Ouais.
C'est très romanesque.
Ouais.
Vous l'avez retrouvé à plusieurs reprises dans Les Bien-aimés de Christophe Honoré, La vérité de Kore-eda. Mmh. Et dedans, d'ailleurs, vous campez une actrice qui ne sait pas pleurer.
Oui.
Et maintenant, vous savez pleurer, parce que je crois qu'avant, vous aviez quelques astuces comme le menthol sur les paupières ou des choses comme ça.
Oui, mais ça, j'avais essayé, étant plus jeune, le menthol sur les paupières. Et une fois, j'en avais trop mis. Et en fait, au moment de tourner, j'étais aveugle. J'avais les yeux rouges et je pouvais plus les ouvrir. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, ça c'était... En fait, quand j'étais jeune, j'avais l'impression toujours de pas avoir eu assez de fêlures, de fractures, et de pas être à vif, suffisamment à vif pour être capable de pleurer. Et aujourd'hui, avec l'expérience de la vie, c'est plus du tout une question.
Pareil que Gina Roland vous a rassuré sur la question.
Oui, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, quand j'ai eu la chance de la rencontrer, je devais avoir 25 ans, 26 ans, et je lui ai demandé si elle fabriquait la détresse ou si elle allait chercher la sienne. Ce qui était une question, disons, pertinente pour mon âge. Elle m'a dit, ne t'inquiète pas, la vie se chargera de te donner la réponse. Et tu verras, à un moment, on appuie sur un bouton et ça coule. Et j'avais été moyennement satisfaite de sa réponse à l'époque. Et maintenant, en fait, j'ai retrouvé la vidéo dans le grenier de mes parents parce que je cherchais une vieille VHS de famille. Et je suis tombée sur cette vidéo-là. Et je me suis dit, mais quelle... En fait, j'étais attendrie par ma naïveté, quoi.
Mais pourquoi naïveté ? Parce que là, on dirait que vous dénigrez la question, on paraît assez pertinente.
Oui, oui, ça l'était. Mais ce n'est pas une question que je lui poserai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai la réponse. Aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience de vie et de travail. Là, j'étais un peu... je ne dénigre pas ma naïveté, au contraire, elle me touche. J'ai de la tendresse pour moi jeune.
Qu'est-ce qui vous a le plus aidé pour pouvoir pleurer, Gina Rolands ou l'analyse ?
Les enfants, la maternité. La maternité, ça m'a apporté une espèce de sensibilité infinie, je crois. L'idée que son enfant souffre, ça peut me faire partir tout de suite. Je dis pas que c'est quelque chose que j'utilise au travail, mais en tout cas ça m'a mis dans un état de disponibilité aux larmes.
Petit salaud, ton jeu est clair, tu veux tout sans rancune, le beurre, le cul de la crémière, deux pour le prix d'une.
Petite garce, que tu es vulgaire, que c'est laid dans ta bouche, que cette jalousie m'indiffère, vois comme tu te couches.
Je suis le pont sur la rivière qui va de toi à toi. Traversez-moi la belle affaire. Embrassez-vous sur moi.
Je n'aime que toi. Je n'aime que toi.
Je n'aime que toi, composé par Alex Baupin pour le film Les chansons d'amour de Christophe Honoré, où on vous entend Ludivine Sagné avec Louis Garrel et Clotilde M. Christophe Honoré et François Ozon, ils aiment beaucoup vous faire danser ou chanter.
Oui, c'est vrai. Et ça me ravit parce que j'adore le faire avec eux. Et puis ils me demandent de faire des choses qui sont à ma portée. On ne me demande pas des performances vocales... de Nathalie Dessay, donc tout va bien.
Je reviens sur une chose. Dans Swimming Pool de François Ozon, vous étiez une femme fatale et vous avez dit qu'en fait, elle ne vous ressemblait absolument pas à l'époque. C'était vraiment un rôle de composition.
Oui.
Mais on vous l'a un peu collé, ce rôle.
Oui, effectivement. C'est pas vraiment femme fatale qu'on m'a collé, c'est le rôle d'une fille sexuelle en apparence. Alors que c'est quelque chose que j'avais travaillé, comme je me souviens à l'époque, il y avait Charlize Theron qui sortait Monster, où elle avait fait un travail dans l'édissement qui était vraiment incroyable. Et moi, je m'identifiais à elle parce que j'avais eu l'impression de faire un travail de transformation vers une espèce de créature comme ça. Ultra sexuelle, ultra aguichante, séduisante, et c'était pas pour moi c'était un vrai travail de composition de personnage. Et ensuite on a cru, les gens qui me connaissaient pas, surtout la presse internationale, a cru que c'est imaginé que j'étais cette fille là.
Quel est le rôle dans votre filmographie qui vous ressemble le plus?
Oh là là, je sais pas. C'est des micros, à chaque fois, c'est des micro-parties de moi. J'ai revu il n'y a pas longtemps avec mes filles un film qui s'appelle Pieds nus sur les limaces où je jouais avec Diane Kruger et j'étais très émue et elles me disent mais maman t'es très émue par toi-même et je dis en fait je suis très émue parce que je crois que je garde un peu de mes rôles et qui continuent de vivre en moi et que leur charge émotionnelle elle est toujours présente et si je les recroise et ben cette bulle elle éclate.
Il y en a un qui vous a plus imprégné que d'autres, que vous portez encore ?
Non, pas spécialement. Je pense que c'est équilibré.
Comment vous écrivez ? Est-ce que vous pensez longuement avant d'écrire ? Est-ce que vous vous isolez ? Comment vous procédez ?
Ben, j'y pense tout le temps, forcément. Et puis j'écris quelques heures par jour.
Tous les jours ?
Tous les jours, oui.
C'est étonnant. Vous êtes disciplinée ?
Oui, je suis assez disciplinée.
Cependant, dans vos livres, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de discipline.
C'est vrai.
Chez pourtant. Les gens.
Parce que ça ne se place pas au niveau des actions volontaires. Ça se place au niveau de l'instinct pur ou de quelque chose qui n'est pas conscient. Alors là, la volonté n'intervient pas.
C'est exactement l'essence de son travail.
Oui,
pur.
On est toutes les deux un peu remuées par la question de la journaliste Andréane Lafont sur Radio-Canada en 69 à Nathalie Sarraute. C'est un peu fort de café de lui dire, on dirait pas du tout que...
que vous êtes disciplinée, alors que Sarraute, justement, c'est la discipline même. Puisque elle, qui clame que la forme, c'est le fond, elle est comme une sculptrice de la langue. Elle passe des heures et des heures à travailler son mouvement, sa fluidité, avec évidemment la volonté de décrire voilà, tout ce qui est inconscient, tout ce qui n'est pas volontaire, comme elle vient de le dire, chez les gens, comme une espèce d'avant... elle est entre Proust et Freud, quoi. Et donc, pour moi, c'est tout sauf de la spontanéité, d'être capable de décrire cette spontanéité-là.
Ludivine Sani, vous l'avez incarné dans la pièce de Christophe Honoré, Nouveau Roman. Comment vous vous étiez préparée ? Parce que Christophe Honoré, j'ai eu un peu de documentation auprès de lui, puisque la pièce n'est pas encore en tournée, et il m'a dit que vous étiez une grande lectrice. Donc j'imagine que vous l'avez lu aussi, pour l'incarner.
Ah oui, Sarraute, j'ai tout lu. Mais vous savez, j'ai une mémoire très petite, donc j'ai tout lu, mais je me souviens pas de tout. Mais par contre, je me suis plongée dans sa vie, dans son œuvre, et j'ai adoré l'incarner. Elle m'a tirée vers le haut, elle m'a appris énormément de choses.
Quoi, par exemple ?
Justement, cette idée de forme, de ne pas sous-estimer la forme, et que en fait la forme d'une œuvre, la forme d'un récit. Raconte qui on est et quelle vision on a de la vie.
Et d'ailleurs, là, vous allez me voir arriver avec des gros sabots. Elle a écrit sur Madame Bovary de Flaubert.
Oui.
En disant que, en gros, ce qu'on pouvait prendre pour des défauts étaient en fait les qualités du texte. Et en parlant de la forme, évidemment. Et là, on parle de Bovary Madame, puisque dedans, vous faites Emma Bovary. Alors, c'est une pièce qui s'adresse aux plus de 15 ans. Pourquoi ?
Parce que il y a... une certaine violence dans ce récit. Son rapport aux hommes est violent, notamment à Rodolphe Boulanger, son premier amant, enfin le premier amant consommé, qui l'a trahi, qui a une espèce de domination malsaine sur elle. Donc ça, je pense que c'est pas des choses qui méritent d'être vues quand on est jeune. Et puis donc ça il y a un rapport à la sexualité qui est assez cru, même si c'est pas dans des tableaux, il y a pas de trop de nudité, en tout cas il y a pas la mienne, sans vouloir déflorer quoi que ce soit. Et puis il y a aussi l'idée de l'humiliation aussi qui est traitée dans la forme que Christophe a choisie, l'humiliation d'Emma. Et je pense que on n'a pas envie de montrer ça à nos enfants.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Messieurs, dames, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, un fauve 100 fois plus meurtrier que ceux dans notre ménagerie, un monstre sanguinaire aux yeux d'ange. Lola Monte. comtesse Maria Dolores de Lansfeld, en chair et en os.
Ludivine Sagné, vous incarnerez bientôt Emma Bovary dans la pièce Bovary Madame, mise en scène par Christophe Honoré, adaptée de Flaubert et avec quelques emprunts au film Lola Montez de Max Ophuls. Mm-hmm. Là, on entend Peter Ustinov qui fait Monsieur Loyal dans un cirque et qui présente Martine Carol, Lola Montez. Et dans la pièce de Christophe Honoré, il y a une Madame Loyal qui vous présente un peu de la même manière, assez cruelle. En fait, ce qui est intéressant, en se réappropriant justement la façon qu'on a de montrer un peu obscène Emma Bovary, c'est que jusqu'à présent, quand on parlait de l'héroïne de Flaubert, souvent on l'imaginait comme une idiote qui rêvait à des princes charmants parce qu'elle s'ennuyait dans sa vie de province, et on a peu parlé de ses qualités. Or, la question est la suivante, n'est-ce pas misogyne de railler Emma Bovary ?
Bien évidemment que si, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de la montrer en 2025. C'est facile de la critiquer, c'est facile de la juger. Effectivement, c'était une jeune femme. Elle a ses circonstances, c'est-à-dire que c'est vrai que c'était une jeune femme qui avait des rêves. Qui était très romantique. Oui, elle rêvait de vivre des contes de fées. Malheureusement, sa vie n'a pas été tellement à la hauteur de ses rêves. Donc c'est une déception permanente. Je me souviens, j'étais choquée quand j'ai lu le procès qui a été fait à Flaubert, qu'il a gagné d'ailleurs. Le procureur, qui s'appelait Monsieur Pinard, disait « c'est une honte, en fait, j'ai deux filles et moi je ne veux pas que mes filles lisent ça parce que c'est une apologie de l'adultère ». Et en fait, cette criminalisation de l'adultère de la femme, parce qu'il est hors de question de criminaliser l'adultère de l'homme, elle est tellement injuste dans une époque où l'émancipation de la femme est quasiment impossible. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de travail, à part d'être bien née, en fait, on a très très peu de chance d'avoir une vie épanouie. Et c'est aussi cet honneur-là qu'on a envie de lui faire à Emma, que finalement elle n'avait pas le choix. Et moi, je suis la dernière personne à la juger.
Et Charles Bovary, moi j'aimerais bien aussi qu'on le défende parce qu'on le prend pour l'idiot de l'histoire, alors que je trouve
ouais,
que
c'est émouvant. Il a été.
C'est le mari d'Emma, pour ceux qui n'auraient pas lu ce chef-d'œuvre.
Ouais, il a été bien sûr caricaturé comme ça. Bon, il faut dire que. Il dit quand même, Flaubert, il dit la conversation de Charles était plate comme un trottoir. Hein. C'est pas non plus, il dégouline pas de charisme.
Mais il est vraiment amoureux d'Emma.
Mais il est amoureux d'Emma, absolument. Et c'est le héros parce qu'on commence le roman sur lui, sur son enfance à lui, et on termine aussi sur lui. C'est un héros très discret, si je peux me permettre, qui mérite un peu d'attention, effectivement.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu du dispositif de la pièce qui est aussi... Il y a une écriture de plateau, donc c'est tout le temps en mouvement, mais à un moment, je ne vais pas révéler trop de choses, mais j'ai demandé la permission, et je peux dire qu'à un moment, vous prenez une tarte à la crème dans la tête, donc il y a quelque chose de très circassien, il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la vidéo.
Il y a du clown, ouais. Il y a de la voltige, il y a des choses qui se passent dans les airs, absolument. Oui, on reprend les codes du cirque, même si nous ne sommes que des comédiens, donc on n'est pas à la hauteur, évidemment, des numéros... extravagant du cirque, mais en tout cas on fait ce qu'on peut, et il y a notamment une tarte à la crème, et ça c'est, pour moi ça c'est une violence inouïe, en fait, de se prendre une tarte à la crème.
Vous la prenez vraiment?
Ouais. Je vous avoue que je pense que je vais pas rester indemne de se prendre ça tous les soirs. C'est une vraie humiliation.
En parlant de ça, il y a une phrase que vous prononcez en tant qu'Emma Bovary dans la pièce, mais je ne dis pas dans quel contexte. Vous dites « vous m'avez vendue au public ». J'aimerais bien qu'on parle de ça, parce qu'il me semble que c'est une problématique pour tout acteur.
Absolument. Et ça, évidemment, c'est une phrase de Christophe Honoré, non pas de Flaubert. Parce qu'Emma, dans le roman, elle dit « je suis à plaindre, mais pas à vendre ». Et là, effectivement, elle a été vendue au public, sa vie... Son malheur est capitalisé, quoi. Et ça, c'est d'autant plus présent dans notre société actuelle où toutes les vies sont données en pâture aux gens qui s'en repaissent sans aucun scrupule, quoi, pour se donner bonne conscience. Oui, effectivement, elle est exploitée, cette Emma. Et c'est aussi, c'est une façon de raconter, effectivement, à quel point celui qui donne sa vie, il est fragilisé, il est martyr, d'une certaine manière. Mais aussi, c'est une façon de dire qu'on a eu beaucoup d'idées sur Emma, mais que, en fait, les idées qu'on a sur Emma, c'est les choses qu'on projette nous-mêmes, et on n'a pas vraiment respecté l'individu qu'elle est.
Jimi Hendrix, Little Wing, qui, au moment où je parle, est censé être dans la pièce, mais tout peut changer, car, je le rappelle, c'est en création, c'est une écriture de plateau. Mmh. C'est pendant un long monologue d'Emma Bovary que vous interprétez, Ludivine Sagnier. J'aimerais bien que vous nous parliez encore un peu du livre, puisque vous êtes une grande lectrice. J'aurais aimé que vous nous lisiez un passage, mais je crois que vous avez collecté quelques citations que vous aimez.
Oui, là, j'ai mon petit cahier, donc je peux peut-être vous en dire quelques-unes. C'est des petites citations qui m'accompagnent, qui sont pas forcément dans la pièce, mais je trouve qu'ils donnent une bonne image d'Emma et qui donnent envie de la lire. Et voilà. Alors, je commence. Je vous en fais trois.
D'accord.
Elle, sa vie était froide comme un grenier dont la lucarne est au nord, et l'ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. C'est beau, hein?
Ah bah non, et Flaubert.
Ouais, Flaubert, quoi.
Flaubert.
Il y en a une autre qui m'intéresse justement pour arriver à la comprendre. Elle confondait dans son désir les sensualités du luxe avec les joies du cœur, l'élégance des habitudes et les délicatesses du sentiment. C'est aussi pour ça qu'on l'a associée à une femme matérialiste, quoi, à l'idée de matérialiste. Et une dernière, ça c'est plus vers la fin. Quelque chose de belliqueux la transportait. Elle aurait voulu battre les hommes, leur cracher au visage, les broyer tous. Et elle continuait à marcher rapidement devant elle, pâle, frémissante, enragée, furetant d'un œil en pleurs l'horizon vide et comme se délectant à la haine qui l'étouffait. Parce qu'elle se complaît aussi. Elle a tellement pas de... Comment dire ? Elle a tellement pas d'émotions fortes dans sa vie qu'en fait, elle attrape des émotions aussi... Peu importe qu'elle soit négative ou pas, elle se complaît dans l'intensité.
Vous l'avez relu récemment ?
Je le lis tout le temps.
Alors, est-ce qu'on peut dire, parce que moi, il y a une scène qui m'a vraiment marquée dans le roman, c'est la scène des comices.
Ouais.
Parce que c'est écrit comme une symphonie, avec plusieurs partitions.
Oui, parce qu'en fait, il y a deux actions dans la même scène. Il y a les comices, qui est l'équivalent du salon de l'agriculture à l'époque. Et puis, c'est une scène de séduction. Donc, c'est Rodolphe Boulanger, le seigneur du coin, qui en fait, s'est dit, en la voyant de loin, tiens, celle-là, je vais me la faire. Et il se pose même la question, ouais, mais comment s'en débarrasser ensuite ? Donc, on voit le niveau de prédation de cet homme. Et en fait, il lui fait la cour, mais vraiment, ça m'a rappelé certaines personnes que j'ai pu croiser. C'est-à-dire que une jeune femme qui est tout en premier degré, qui est tout en fragilité, en romantisme, il sait exactement comment arriver à ses fins. Et elle qui croit qu'il lui dit des choses comme ça pour la première fois, alors que lui, c'est sa routine, quoi. Et c'est terrible de voir à quel point elle se fait avoir.
Christophe Honoré, qui est aussi cinéaste et écrivain, a fait un abécédaire pour la pièce. Mmh. Vous l'avez consulté ?
Ouais, alors comme il l'avait fait imprimer, je l'ai collé dans ma loge. Je l'ai en face de moi dans ma loge pour travailler, ouais.
Parce qu'il y a des images auxquelles j'aimerais bien que vous réagissiez, Ludivine Sagnier. Alors, ce sont des images souvent tirées de films ou des tableaux avec simplement une phrase ou un mot. Il y a « Cri et chuchotement » de Bergman.
Oui.
Il y a « Crime et châtiment » de Dostoïevski, mis en regard avec Madame Bovary en anglais, « Fiacre, foyer ». Il y a Homais, le pharmacien épouvantable du livre. Mais alors là, il a choisi la photo d'Olivier Véran qui se fait vacciner avec son masque pendant le Covid.
Oui, bon, bah, il aime bien avoir faire un petit pas de côté, quoi.
Et alors, l'image du lauréat pour Léon, Dustin Hoffman dans le lit avec Anne Bancroft.
Ouais, c'est sexy, cette photo. Oui, bah, ça, c'est pour Léon Dupuis, le clerc de notaire, dont elle tombe amoureuse au début du roman, enfin, au début de son installation à Yonville, le village dans lequel son mari est officier de santé. Et puis, Léon est trop jeune, il sait pas comment s'y prendre, et puis il décide de partir pour Paris, ça lui brise le cœur, et puis il se retrouve quelques années plus tard, entre-temps, elle aura vécu cette histoire d'amour un peu sadique avec Rodolphe Boulanger. Mais là, lui, il a pris un peu du galon, et donc il vit une relation très forte, très sensuelle, et assez pure, et finalement, c'est elle qui devient un peu le personnage violent du couple. C'est comme si elle refaisait ce qu'elle a vécu avec Rodolphe. Donc elle a un peu tendance quand même à le victimiser, ce pauvre Léon.
Et à l'illustration qui correspond à Rouault Emma, puisque c'est son vrai nom avant qu'elle épouse Charles Bovary, et à Gina Rowlands, dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, c'est vrai.
Pourquoi ?
Je pense que c'est la folie qu'elle a pu incarner, parce que Emma, elle est quand même dans une certaine folie, dans une fragilité infinie. J'ai presque envie de regarder parce que je voudrais pas trahir les intentions de Christophe. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir le regard de Gina Rowlands pas loin. Mais je pense que c'est soit la folie d'une femme sous influence, soit aussi la duplicité, la mise en abîme de l'actrice dans un spectacle. Donc là, ce serait plutôt pour Opening Night. Et puis, voilà.
Bon, eh bien, le standard de ce soir, c'est un hommage au lauréat de Mike Nichols. C'est Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel.
Bien sûr.
Mrs. Mrs. Robinson de Simon and Garfunkel et nous sommes toujours avec Ludivine Sagné.
You are. I am. Benjamin Franklin. Diplomacy must never be a siege, but a seduction.
Beware the Frenchman's promise.
Is everything all right?
Ludivine Sagné, un petit mot sur la série Franklin, sur Benjamin Franklin, je le dis à la française, sur Apple TV, tournée avec Michael Douglas.
Oui, je joue une claveciniste compositrice qui a existé, qui s'appelle Anne-Louise de Brion de Jouy, qui n'a pas été tellement, retenue par la postérité, parce qu'elle était timide et qu'elle voulait pas, elle signait pas ses œuvres. Mais elle a eu, elle était voisine de Franklin à Passy pendant les 8 années qu'il a passé en France et ils avaient une relation très intime, très forte, très spirituelle. Et j'ai eu la chance de passer quelques mois avec Michael Douglas, ouais.
Vous faites une compositrice et alors ça m'a fait penser au fait que vous avez grandi dans une famille de mélomanes, que votre grand-père était flûtiste à l'ORTF.
Ici même.
Ouais, mais que ça vous terrorisait la relation qu'il avait à la musique et que vous dites que vous avez choisi le théâtre pour fuir le piano.
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, un musicien classique, c'est comme Nathalie Sarraute, c'est beaucoup de discipline. Donc, il travaillait. Bon, moi, je l'ai connu. Il était déjà retraité, mais il faisait plusieurs heures de flûte par jour, même retraité. C'était sérieux la musique. Il y avait quelque chose de sacré. Il y avait pas de notion de divertissement. Il y avait pas de légèreté. Et donc, j'assimilais ça, ouais, à quelque chose une dureté comme ça. Quelque chose d'impossible à atteindre, un idéal impossible à atteindre.
Dans The Young Pope et The New Pope de Paolo Sorrentino, la série, vous êtes Esther Ludivine Sagné. Vous jouez aussi dans les 4 saisons de Lupin aux côtés d'Omar Sy sur Netflix. Est-ce que vous aimez les séries? Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à retrouver un personnage au fil du temps?
J'aime beaucoup les séries parce que c'est un engagement long. C'est vraiment on a un temps pour explorer un personnage. C'est très très agréable. Là, je pense à Esther. Je pense aussi à une série que vous n'avez pas citée, mais que j'adore, qui est un peu ma chouchoute, c'est The Serpent Queen. C'est sur la vie de Catherine de Médicis. Et moi, j'interprète Diane de Poitiers. Et j'ai beaucoup aimé interpréter ce rôle qui a été souvent aussi galvaudé, jugé, condamné, alors que c'était une femme qui se battait comme elle pouvait. Et oui, j'ai du plaisir à aller au fond des choses, vraiment. Et Lupin, par contre, c'est du plaisir pur. C'est de la comédie, c'est de l'action. C'est le plaisir de passer les journées avec Omar Sy et Antoine Gouy, aussi mon partenaire. Moi, j'aime bien. J'ai un truc de fidélité. J'adore retrouver les gens. Je travaillais souvent avec les mêmes personnes et j'aime beaucoup ça.
Évidemment, je crois au cinématographe. Si je n'y croyais pas, je n'en ferais pas. Mais je crois surtout que je fais du cinématographe non pas tellement parce que je crois pouvoir apporter un message au monde. J'ai horreur des messages, je n'aime pas qu'on m'en envoie. Alors pourquoi en enverrais-je aux autres? Non, je crois que je fais simplement du cinématographe parce que ça m'amuse follement. Je trouve qu'on est très heureux sur un plateau, avec des acteurs, avec des techniciens, avec des caméras, avec des lampes, avec des électriciens. C'est un endroit dans lequel on se sent à son aise. J'ai mis ça à mon aise un peu comme un ruminant dans un pré, avec une bonne herbe. Et je crois que la grande raison pour laquelle je continue à mon âge à faire du cinématographe, c'est surtout pour cela.
C'est Jean Renoir sur Radio-Canada en 1966. Ludivine Sagné, il fait partie des cinéastes que vous affectionnez, en revanche, pas forcément pour l'adaptation.
De Madame Bovary, non, c'est pas mon adaptation préférée. J'avoue qu'il y a eu 4 les plus connues au cinéma. Enfin, 5 si on compte celle de Manuel de Oliveira, mais qui est quand même très éloignée du roman. Donc il y a eu Vincente Minnelli, Jean Renoir, Claude Chabrol. Ensuite, il y a eu une Française dont le nom m'échappe, mais dans une production américaine avec Mia Wasikowska.
Alors, laquelle est votre préférée? Parce que j'imagine que vous les avez toutes vues.
Oui, je les ai toutes vues. Ma préférée, c'est celle de Chabrol.
Que vous connaissez.
Que j'ai eu la chance de connaître et qui avait, je ne sais pas, un sixième sens pour raconter les mœurs de province. Et c'est d'ailleurs le sous-titre de Madame Bovary. Donc Chabrol, c'est lui qui a fait une adaptation la plus fidèle au roman, qui a fait le moins de coupes. Et bon, il avait quand même comme instrument l'immense Isabelle Huppert, donc ça aide, faut dire. Mais je trouve qu'il a, je trouve que il a senti, mais parce qu'il a Flaubert dans la peau, il a Balzac dans la peau, il connaît par cœur Chabrol.
J'aime bien avoir des recommandations en fin d'émission. Est-ce que, en quelques secondes, vous pouvez recommander, si vous voulez, un film de Chabrol, un autre, ou un film que vous aimez de n'importe quelle époque, ou un livre?
Alors, oui, je vous recommande un livre, coécrit par Mylène Chapiron et le juge Édouard Durand. Et c'est un livre qui s'appelle « Tes droits et tes besoins ». C'est un livre qui est destiné aux enfants et qui explique aux enfants ce à quoi ils ont droit. Et il sensibilise vraiment les enfants sur... Sur les limites de tout. Mylène Chapiron, elle a déjà fait trois livres qui étaient plus orientés vers la prévention des violences pédocriminelles. Mais là, voilà, avec le juge Durand, elle explore quelque chose de plus légal et je trouve ça intéressant.
Merci Ludivine Sagnier.
Merci à vous.
Bovary Madame, mise en scène par Christophe Honoré, est au Théâtre de Vidi à Lausanne jusqu'au 8 octobre, puis en tournée dans toute la France, pour finir au Théâtre de la Ville à Paris du 20 mars au 16 avril 2026. Vous serez aussi prochainement dans la quatrième saison de Lupin aux côtés d'Omar Sy sur la plateforme Netflix. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Florian Dorimini.